Laudetur Jesus Christus.
Moins de 10 heures aux Corses pour montrer leur foi, culture et tradition, Paris réussit. Ce dimanche, le pape souhaite qu'ils transmettent tout cet héritage de façon ouverte et vivante. Récit d'une journée historique avec notre envoyé spécial à bord du vol papal et dans la cité impériale où la ferveur et le recueillement, tout simplement, furent au cœur sur l'île de beauté réenchantée. Témoignage également dans ce journal de fidèles et de séminaristes aux premières loges ce dimanche. Dans le reste de l'actualité, Mayotte dévastée au cœur des prières du pape et de la préoccupation de l'État français après le passage du cyclone Chido. Reportage dans ce journal également auprès de la population d'Idlib en Syrie qui attend beaucoup du nouveau pouvoir avec lequel les chancelleries commencent à entrer en contact progressivement.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.
Bonjour à tous, c'est rare, c'est en français. La voix du pape a résonné hier au Casone et d'Ajaccio où il a présidé la messe du troisième dimanche de l'Avent, dimanche de la joie. L'émotion fut immense hier pour la plus grande ville de Corse, dont le sol a été foulé pour la première fois par un évêque de Rome. Lors de sa visite de moins de 10 heures, François a de ses yeux vu la manière dont les Corses vivent leur tradition religieuse, même dans l'espace public. Un héritage, une saine laïcité que François encourage à transmettre aux plus jeunes, Marie Duhamel.
Ce fut un moment de grâce après une journée de fête. Quand à la nuit tombée s'est élevé le Dio vi Salvi Regina. Au-delà des choristes et des confréries, c'est le parterre des fidèles qui semblait tout entier révéler son cœur. La visite du pape, c'est une fierté, un honneur, disent les Corses, et espèrent certains le réveil de leur foi. À deux reprises, lors de la messe et plus tard dans l'avion, François s'est réjoui d'avoir vu tant de jeunes l'avenir, nombreux parmi les foules, chantant à quasi chaque étape de sa visite. Ils ont tendu au pape le cierge de la Madonnuccia. L'un d'eux a récité un credo en pleine rue. Hier, François a salué le modèle de la laïcité à la Corse, un concept qui ne doit pas être statique et figé, mais évolutif et dynamique, capable de promouvoir une coopération constante entre les autorités civiles et ecclésiastiques, chacune bien sûr dans les limites de ses compétences et de son espace. Le pape argentin, qui voit dans la piété populaire une force activement évangélisatrice, a tout de même pris le soin de mettre en garde contre toute instrumentalisation par des groupes qui entendent renforcer, dit-il, leur identité de manière polémique en alimentant des particularismes, des oppositions, des attitudes d'exclusion. Mais cette visite en France était avant tout pastorale et dans un monde où Dieu semble s'estomper, François n'a pas manqué de remercier les consacrés de Corse peu nombreux, dotés de moyens limités. Prenez soin de vous, leur a lancé François, pour pouvoir prendre soin des autres.
Notre envoyée spéciale à Ajaccio, Marie Duhamel, qui a pu constater la ferveur des fidèles. Elle a rencontré notamment Silver, un musicien qui a joué devant le pape lorsque celui-ci s'est arrêté devant la statue de la Madonnuccia, la sainte patronne de l'île. Pour cet homme qui joue depuis 50 ans, ce fut certes un honneur, mais ce moment fut marqué par autre chose, comme il l'a confié.
Au moment où je jouais, cette sensation, c'est d'être transporté. Je peux pas, des trucs qu'on ne peut pas expliquer. C'est le fait de voir sa présence, ça, qui illumine un petit peu en moi-même la foi, l'émotion, le tout. Je ne trouve pas les mots exacts, mais je me suis laissé transporter. Et transporté par ma musique, et transporté par son regard apaisant, qui a ravivé en moi de l'énergie que je sentais un peu perdue. C'est vrai. Donc, c'est quelque chose d'important. J'espère pour moi, comme tous les autres fidèles qui sont là aujourd'hui, cette lueur d'espoir, cette flamme, cette braise qui était un petit peu en train de s'éteindre peut-être, elle est en train de se ranimer et je dirais même de s'enflammer. Voilà.
Autre fidèle corse, Johanna a pu suivre avec son petit garçon la visite du pape à chaque étape, étant la femme d'un diacre qui a servi à la messe. Elle partage ce grand moment de bonheur pour elle et pour toute la Corse.
Cette journée, c'est un moment de grâce, c'est sûr, en tant que chrétienne. C'est un moment aussi de fierté en tant que Corse, de voir le pape fouler notre terre. Et c'est une immense joie, vraiment, c'est un bonheur. On a du mal même à trouver les mots pour l'exprimer.
Elle a besoin de quoi, l'Église de Corse, aujourd'hui? Est-ce que le pape vous a donné des éléments pour vivre mieux votre foi?
Elle a besoin de jeunesse, d'une jeunesse fière, dynamique, qui prend des initiatives. Voilà, et le pape, oui, il nous a montré. Je pense qu'il a réveillé ça chez les Corses aujourd'hui. C'était présent, mais il a rallumé un feu qui était en train de s'affaiblir.
La joie des fidèles à rencontrer celle du clergé corse qui a eu un moment privilégié avec le pape dans la cathédrale de la cité impériale. Celle-là même où le baptême du petit Napoléon fut célébré il y a 350 ans. Alors sous la voûte baroque de Notre-Dame de l'Assomption, l'évêque de Rome a exhorté les prêtres de Corse et du continent à réfléchir à leur mission de collaborateurs de la grâce de Dieu afin d'en garder la cohérence intérieure. Message reçu un peu plus tard dans la journée aussi chez les séminaristes, ainsi de Petru Saveriu Luciani du diocèse d'Ajaccio. Il participait comme servant de messe à la célébration eucharistique du pape sur la place d'Austerlitz. Il nous confie sa joie.
Nous, on a eu quand même le privilège de servir la messe. C'est tout ce que nous avons fait, mais ça représente beaucoup. Moi, j'étais porte-micro, j'ai une place quand même privilégiée. Ça reste inoubliable hein, dans une vie. Ça arrive une fois dans une vie. Quand ça arrive, j'étais près du pape au début de la messe, à la prière, après le kyrie, pour la bénédiction finale, etc. Donc j'ai pu approcher le pape de très près. C'est une joie ineffable. Hein. D'abord de voir la Corse qui se rencontre, tout ce peuple uni, une telle ferveur, toutes ces confréries, il y avait énormément de confrères. Ce lien entre les confréries, les gens, c'était très beau. Hein. Ça restera avant tout un bon souvenir, quoi. Bon, c'est sûr que c'est pas tous les séminaristes qui peuvent voir ça dans leur diocèse. Hein. Là, on a eu la chance quand même, en un an, de le voir nous à Marseille, venant du séminaire d'Aix, et le revoir là, chez nous, un an après. Sans compter qu'on a pu assister au cardinalat l'an dernier aussi, quand notre évêque est écrit cardinal. Et c'est extraordinaire, quoi.
Enfin, ce dont on retiendra de cette journée est l'appel du pape à une saine laïcité, concept développé par Benoît XVI, qui a été repris par François dans son discours de clôture du congrès sur la religiosité populaire en Méditerranée hier matin. Le Saint-Père a salué la manière dont la laïcité, sujet ô combien sensible en France, est vécue au quotidien en Corse. Par rapport au continent, les relations entre l'Église, les fidèles et les autorités politiques sont beaucoup plus souples, les débats moins passionnés. Thomas Castelli, séminariste en deuxième année de philosophie pour le diocèse d'Ajaccio, revient sur cette laïcité à la Corse.
La laïcité telle que nous la vivons chez nous est une laïcité qui est sereine. On n'est pas dans une logique d'opposition, on est dans une logique de complémentarité. Premièrement parce que la foi catholique est particulièrement enracinée encore aujourd'hui en Corse, mais aussi parce qu'il y a cette volonté, tant du côté de l'Église que du côté des institutions civiles, de pouvoir apporter au peuple ce que chacun peut apporter et de vouloir vraiment avancer ensemble. Et donc il y a une très bonne relation entre les services de l'État, les services locaux, les élus, qui ont vraiment envie de se mettre au service et qui laissent aussi sa part à toute l'Église. Ça s'exprime, par exemple, lorsqu'il y a un événement dans un village, premièrement, tout le monde se mobilise, y compris la municipalité. Et lorsqu'il y a un événement grave, les gens se mettent tous en mouvement, et donc y compris les paroissiens, au nom de la paroisse, les confréries particulièrement, apportent leur aide. Et il y a, on va dire, souvent une mutualisation des moyens, tant des moyens qui viennent des municipalités que des moyens qui viennent de la paroisse.
Des propos recueillis par Xavier Sartre et les autorités politiques françaises furent présentes du début à la fin de cette journée. Le président français s'est dit très fier d'avoir accueilli le pape en Corse. Il a offert au Saint-Père le splendide livre officiel sur la réouverture de Notre-Dame de Paris. En quittant la Corse à bord de l'avion papal, le pape a enfin invoqué toutes les bénédictions divines sur la France, remerciant son peuple et souhaitant prospérité, unité et concorde à tout le pays. De l'autre côté du globe, le 101e département français compte toujours ses morts près de 48 heures après le passage du cyclone tropical Chido à Mayotte. Aucun bilan provisoire n'a été établi au vu des destructions causées. Les autorités locales craignent que le passage du cyclone Chido dans ce département français le plus pauvre n'ait causé des centaines de milliers de morts. La correspondance régionale depuis Moroni aux Comores de Natija Swahili.
Après le passage du cyclone tropical intense Chido à Mayotte samedi 14 décembre dernier, le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, expliquait sur Mayotte la première qu'il est extrêmement difficile d'obtenir un nombre exact à l'heure actuelle de morts ou de blessés. Alors que les décomptes liés à l'hôpital faisaient état de 11 décès, près de 250 blessés, dont 9 en urgence absolue, le préfet de Mayotte a déclaré, je cite, « Je pense qu'il y a certainement plusieurs centaines de morts, peut-être approcherons-nous le millier. » Au lendemain du passage de Chido, c'est une Mayotte en ruine que l'on retrouve avec des maisons rasées, des toitures emportées, des arbres déracinés et quelques 15 000 foyers privés d'eau et d'électricité. Avec des rafales de vent dépassant 220 km/h, Chido s'est dirigé vers l'archipel voisin des Comores où les champs d'agriculteurs ont été touchés et des câbles de télécommunication endommagés. Sur place, l'inquiétude est de taille. Personne n'arrive à joindre ses proches à Mayotte.
À Moroni, Natija Swahili, le pape s'est bien sûr uni spirituellement hier à toutes les victimes de cette tragédie. Au Proche-Orient, plus d'une semaine après la chute de Bachar al-Assad, plusieurs chancelleries étrangères prennent contact avec le nouveau pouvoir syrien. L'envoyé spécial de l'ONU a rencontré hier Al-Jolani, le chef du groupe islamiste HTS. La France dépêche aussi une mission diplomatique demain à Damas, la première depuis 12 ans. Le Qatar rouvre lui ce mardi son ambassade en Syrie en boitant le pas à la Turquie qui l'a fait samedi. Le groupe HTS à la tête de l'offensive gouvernait en tout cas déjà depuis 2019 la province d'Idlib, une poche de 4 millions d'habitants où vivait une grande partie des déplacés syriens. Sur place, la majorité des habitants fait donc confiance au groupe rebelle pour diriger l'avenir du pays. Reportage de notre envoyé Manon Chaplin.
Difficile à Idlib de trouver une conversation qui n'évoque pas le succès d'Ayat Tahrir al-Sham. Le nom de ses représentants, son drapeau et celui de la révolution syrienne. Trois étoiles et du vert à la place du rouge sont désormais partout. Dans les rues, à l'arrière des voitures, sur les devantures de boutiques comme celle de Zakaria.
Depuis que HTS gouverne à Idlib, tout va beaucoup mieux. En quelques années, ils ont reconstruit tout ce qui avait été détruit. En créant des infrastructures bien meilleures qu'avant, en construisant un stade de football. Et grâce à eux, nous avons de l'électricité et de l'eau courante 24 heures sur 24.
Idlib, gouverné par HTS depuis 2019, a longtemps fonctionné comme une poche. Un état dans l'état avec son gouvernement du salut, son premier ministre, ses ministères et ses départements locaux, mais aussi ses bombardements et ses milliers de déplacés. Mustapha a longtemps vécu dans un camp.
Dès la première année de leur arrivée au pouvoir, j'ai senti la différence, à quel point on était plus en sécurité. Ça a été comme une renaissance pour la ville, que ce soit pour l'éducation, l'économie, le commerce. La seule chose qui me faisait peur ici, c'était les bombardements.
Beaucoup évoquent également la présence de minorités qui n'ont pas toujours bien vécu mais qui ont toujours été acceptées. Au micro, seul un étudiant qui a souhaité rester anonyme ose émettre quelques critiques.
Ils arrêtaient des personnes qui osaient les critiquer. Ils les faisaient disparaître et disaient, surtout, ne posez pas de questions sur eux. Mais ils ont promis qu'ils les libéreraient bientôt.
Jeudi, le gouvernement de transition d'HTS a annoncé qu'il gelait la Constitution et le Parlement afin d'établir un nouvel état de droit. À Idlib, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Une partie du personnel diplomatique russe allié du régime déchu a été évacué de Syrie hier par avion. De son côté, le président ukrainien propose à la Syrie des livraisons de céréales à titre humanitaire. L'Ukraine conservant même en guerre d'immenses capacités de production céréalière. La partie du Golan syrien occupée et annexée va doubler de population israélienne. Annonce de Benjamin Netanyahou ce dimanche dans un communiqué. Israël affirme avoir aucun intérêt à entrer en conflit avec la Syrie après avoir pris le contrôle de la zone tampon surveillée par l'ONU. En Corée du Sud, après la destitution du président Yoon Suk-yeol, le pays retrouve un peu de stabilité mais pas plus de certitude. Samedi, les députés ont voté à 204 voix sur les 200 nécessaires la destitution immédiate du président, dont le sort repose désormais entre les mains de la justice. À Séoul, Clément Le Breton.
C'est désormais le Premier ministre qui assure l'intérim. Fonction habituellement symbolique et cérémonielle, la constitution sud-coréenne prévoit qu'en cas de destitution, le Premier ministre assure l'intérim, le temps que la Cour suprême confirme ou non la suspension du président. Les juges se sont réunis pour la première fois ce matin pour travailler sur le dossier du désormais ex-président Yoon Suk-yeol. La justice a 180 jours maximum pour donner son verdict. Si la destitution n'est pas confirmée, Yoon Suk-yeol reprendra ses fonctions. Dans le cas contraire, une nouvelle élection présidentielle sera convoquée. Déjà, l'opposition, grande gagnante de cette crise politique, s'organise pour cette élection qui pourrait arriver bien plus rapidement que le délai légal maximum. Elle profite d'une longueur d'avance sur le parti présidentiel qui ressort divisé de cette crise politique, partagée entre loyauté au président déchu et volonté de s'en détacher. Pour l'heure, la Corée du Sud est retournée au calme, mais l'incertitude règne quant à l'avenir politique du pays. Clément Le Breton, Séoul, Radio Vatican.
Et puis 38 chars de combat Abrams reçus hier à Taïwan en provenance des États-Unis. L'armée taïwanaise détient actuellement 1000 chars et alloue à sa défense un budget record de 19 milliards de dollars en 2024. Tout cela pour affronter la menace chinoise. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre écoute et fidélité à Radio Vatican. L'actualité du pape et du monde revient à 13h, heure de Rome. D'ici là, très belle journée.